Bienvenue dans Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je m'appelle Adrien Garcia, je suis designer et chaque semaine, je vais à la rencontre des hommes et des femmes qui font la mode. Qu'ils soient créateurs, entrepreneurs, institutionnels ou influenceurs, je les interview pour comprendre leur parcours, leurs problématiques et leurs stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Ramdan Touami. Ramdan fait partie de mes rôles modèles. Il est à la fois créateur et businessman. Il est le genre de personnage qui fait exploser toutes vos idées reçues. Ramdan a lancé son premier business à l'âge de 17 ans et a multiplié les aventures dans la mode, le retail, les relations presse ou encore la beauté pour se lancer en 2014 avec sa femme Victoire de Taillac dans l'aventure Officine Universelle Bully. Dans cet épisode, on revient sur une partie de son parcours. On parle de Cyr Trudon, de Bully et de beaucoup d'autres sujets. J'ai adoré interviewer Ramdan. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui avec Ramdan Touami. Bonjour Ramdan.
Bonjour.
J'aimerais bien que vous présentiez en reprenant un petit peu votre parcours depuis... Depuis Montauban jusqu'à aujourd'hui.
Waouh, là ça va être long là. Moi je suis fils d'ouvrier agricole dans le sud-ouest.
Ouais.
Je suis pas un mec de cité, je suis pas ce genre de truc. Même si on essaie de m'associer à ça des fois. Je viens d'un milieu paysan, on va dire.
Ouais.
Campagne. J'étais très mauvais à l'école. J'ai battu des records de conneries à l'école parce que j'étais carrément interdit d'académie. Enfin, c'est le truc le plus haut qu'on puisse avoir. C'est-à-dire qu'on n'était plus, on a donné un ordre à tous les lycées de pas me prendre dans une académie. Il fallait que je m'éloigne de l'endroit où je vivais. D'abord, je suis parti en couille. Mais j'étais pas très bon au lycée. Puis au lycée, j'ai lancé une marque de t-shirt. Enfin, j'ai pas lancé une marque. J'étais en admiration. Alors, comme j'étais interdit de lycée, on m'a envoyé dans un internat de bonne sœur, d'ailleurs, qui avait une spécialité mode. Et je me suis retrouvé à côté d'un gars qui était le mec le plus populaire parce qu'il faisait des t-shirts. Et moi, je faisais du skateboard. Il en faisait aussi, qui s'appelait Rich.
Ouais.
Et donc, le gars, j'ai décidé de le copier et de faire des t-shirts, mais pas copier ses t-shirts, c'est copier l'acte de faire des t-shirts. Mm. Je te chinante, donc il y a ce gars-là. Il était très populaire avec les filles, mais c'était un lycée, il y avait 400 filles, 15 garçons. Donc j'ai continué à... J'ai persévéré, puis un jour, en cours, j'ai créé un t-shirt qui s'appelait Te Chinande.
Ouais.
En enlevant le logo Timberland. Et voilà, ça... Premier, j'en ai fait 100, tout le lycée les a achetés. Le lycée d'à côté. Et après, c'est... Au point que à Jars, je pense que j'ai commencé en septembre ou en octobre, et en avril je quittais l'école quoi. J'ai gagné assez d'argent pour me barrer. J'ai pas dit à mes parents que j'avais quitté l'école. Voilà, ça c'est la phase 1. C'était marrant. J'ai fait ça des années, quelques années. J'ai vendu après dans toute la France, marché Malik, des trucs partout. C'était devenu là le t-shirt numéro 1 des Kaira. Et des mecs qui me fumaient des ouinges, alors que j'ai jamais fumé un ouinge, c'est ça qui était marrant. Je voyais le potentiel, puis voilà, c'est comme ça que j'ai découvert le pouvoir que créait de faire des vêtements. Voilà. Pouvoir, ou voilà, un pouvoir un peu bizarre, tu vois, un truc. Qui est plus important que l'argent à la fin. Voilà. Et après, j'ai fait ça, et après, bon, j'ai eu une histoire avec des voyous. Qui ont voulu récupérer tout l'argent que j'avais gagné et le cadre de sérigraphie. Donc après, j'ai tout perdu et je suis retrouvé clochard à Paris pendant une année, en 95, 94.
Mais juste, je reviens sur les t-shirts. Là, ces t-shirts, vous les faisiez vous-même avec un cadre de sérigraphie
Non, j'ai acheté un sérigraphe, mais j'achetais les t-shirts. Alors, j'étais déjà hyper sensible à la qualité. Tout le monde faisait des bases Hanes à cette époque. Moi, j'allais chercher, il y avait une marque de t-shirts américaine qui était très difficile à avoir, qui s'appelait Oneta. Il n'y avait qu'un distributeur en Belgique, je prenais le train, j'allais chercher en Belgique. Les mecs ne comprenaient pas pourquoi je voulais l'idée Oneta, parce que tout de suite, j'avais un truc, les gars, on peut pas faire comme les autres, la qualité de merde, Heinz, tu vois.
Ouais.
Il y avait toujours, on foutait, tu vois, pour moi, ça va de pair, il fallait que ce soit beau et de qualité, tu vois. Gars.
Mais dès le début, ça vient de quoi, cette sensibilité?
Alors, je me pose la question toujours, parce que je ne sais pas d'où ça vient, mais je n'arrive pas à faire autrement.
C'est fou.
Je sais pas, j'adore, hein, mais j'ai toujours été obsédé, un obsédé de la qualité. J'étais vraiment, c'était une obsession chez moi.
Ouais.
Absolue, tu vois. C'est, question, c'est ok, on le fait, mais il faut que ce soit bien. Sinon, on n'y va pas. Donc, il y a beaucoup de projets qui ne sont pas faits parce qu'on n'arrivait pas.
À trouver
un
truc,
email de Tomorrowland au Japon, je cherche un projet avec eux. J'ai demandé à faire une idée, ils m'ont dit on peut pas la réaliser, est-ce qu'on peut la modifier un peu? Ma réponse va être non, on va pas la faire, l'idée est top, on passe à autre chose, on tourne la page. Il y a des gens qui s'adaptent. Moi, je m'adapte pas, non, je pense.
Ouais, pas le temps. Je pas la patience, ouais.
Bon, pff.
Pas de compromis.
Ouais. Ça sort pas comme je veux, ça sort pas.
OK.
Voilà, j'ai plus l'âge de faire. Je n'ai jamais fait des compromissions. D'ailleurs, c'est pour ça que ma carrière elle a mis un peu plus de temps à décoller. Mais enfin, à un bon niveau, je veux dire. Même si elle a décollé très vite et après elle est redescendue. Enfin, il y a des hauts débats, mais il y a ce truc-là de qualité qui était que j'ai connu bien avant de vivre au Japon, parce qu'après ça s'est encore plus évidemment aggravé, mais ce côté. L'idée, c'est d'éviter de vendre de la merde aux gens, voilà.
Bah ouais.
Ce qui est pas une obsession chez beaucoup de monde, voilà.
Ouais. Donc petit souci avec
des voyous.
Ensuite, qu'est-ce qui se passe?
Ben Clodo pendant un an, et puis je te rencontre une fille et elle m'héberge chez elle et je vais chercher du boulot parce qu'il faut gagner de sa vie et je vais dans le sentier et je frappe aux portes, et il y a un mec qui me dit, qui s'appelle Patrick, 59 rue Notre-Dame de Nazareth, je me rappelle toute ma vie, qui m'a dit, tu veux, je cherche un vendeur. Je lui ai dit, non, écoute, moi, je suis pas vendeur, je suis créateur de mode. Et il dit, t'as fait quoi? Je fais des t-shirts. Il dit, c'est pas le même métier, mon frère. Et je dis, ouais, mais moi, je viens du skateboard, et je pense que le skateboard est un gros business, il faut qu'on y aille. Il faut qu'on fasse un truc ensemble dans le skateboard. T'es gros, sans toupé, j'ai pas de taf, je suis à la rue totale, j'ai pas un centime. Et le mec, il dit, OK, je te file une table. T'as besoin d'un mec pour t'aider? Je fais, ouais, il y a un mec que j'ai repéré qui s'appelait Marco, qui était un peu le mec le plus cool dans le skateboard que je connaissais. Et j'ai dit, j'étais clodo avec un skateboard, hein. J'étais pas sale, tu vois, je me lave. Il y a plein d'histoires rigolotes, mais.
Ouais.
Mais, et je dis à, OK, j'ai un gars qui va venir m'aider. Mais le gars en question, Marco, était à San Diego à ce moment-là. Donc le soir, je rentre, j'appelle San Diego. Marco, faut revenir à Paris, il y a du taf, on est sur un projet, on va monter une marque de skateboard. Et Marco dit, Marco était bien frappadingue, il a dit, OK, j'arrive. Et comme si tu prenais le métro et je te rejoins dans un quart d'heure.
OK.
Alors, 3 jours après, Marco est là, on a un bureau, on trouve un graphiste et on lance une marque qui s'appelle King Size. Et là, qui va être un gros, gros carton.
Ouais.
Évidemment, Marco était de trop, donc très vite, Marco était ingérable. Donc au bout d'un mois, il n'y avait plus Marco, ou 2 mois.
Ouais.
Et après, 6 mois après, il n'y avait plus Patrick. Il y avait Coam, et j'étais content d'être bien tout seul.
Ouais. Juste pour revenir là-dessus, comment vous expliquez le succès fulgurant de ce truc-là? Pourquoi vous tapez juste?
Parce que je sais ce qui manque à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce talent-là. Il y a un truc à combler, et là, À ce moment-là, notre devise, c'est King Size, French Savoir-Faire, Finally Come to Skateboarding. Donc, c'était un...
OK, l'angle d'attaque, c'est ça.
Ouais, et puis c'était très bonne qualité encore. Ouais. Il fait des baguilles incroyables, des trucs, tout ultra mieux fabriqué que les autres. Toujours pareil.
Ouais.
Mais la devise, qui était la pub qu'on avait dans les magazines... Alors, j'ai fait un team de skateboarders. Il y avait Ton Penny, il y avait JB Gillet, il y avait tous les mecs, tous les Lyonnais qui étaient là-bas, les stars. Donc, voilà, non. Et puis, on y est allé...
Franco.
Carton total, c'était ouf, tout le monde se battait.
Et c'est vraiment, là c'est un succès national ou vraiment international?
Non, c'est tout européen.
Européen.
Donc on vendait, notre plus gros marché au monde c'était la Suisse.
Mais ça commence avec quoi? Ça commence avec une boutique, avec deux boutiques,
non,
trois
non,
boutiques?
Non, c'est du wholesale, il y a 0 boutique là.
D'accord.
Ah ben attendez, j'ai oublié de vous dire, mais moi j'ai eu des boutiques déjà avant là.
Déjà avant ça, il y avait des boutiques?
Non, quand j'ai fait Tushiland, j'ai pas dit, mais au bout d'un moment il y a eu une boutique.
Ouais.
Je me suis fait carotter par une meuf qui allait dans les raves, c'était assez marrant. Fait une boutique avec elle, rue des Filatiers à Toulouse.
Ouais.
Et puis un jour, j'arrive, elle avait disparu, tout mon stock avait disparu, le fric avait disparu, la meuf avait disparu, elle était partie dans une sorte de Technival, on l'a perdue. J'ai plus jamais revu. Et j'ai perdu ma boutique. C'est un des premiers trucs à faire. Laisse jamais une boutique avec quelqu'un que tu connais pas bien. Voilà. Et voilà. Et voilà. Et donc, non, après, King Size, ça cartonne. Je vends ça. Je fais ça un an et demi. Et après, je vais dans une fête mode avec mon pote Artus. Et on voit toutes les meufs et on dit, on s'est gouré. Le skateboard, c'est pas mal, mais il y a vraiment que des mecs. C'est pas, on n'a rien à faire là. Et nous, on était à fond sur les meufs. On commençait à être à fond sur les meufs. Et je lui dis, il faut que je me débarrasse de King Size, il faut qu'on fasse ça. Et là, je lâche. Je vends ça par hasard à une vieille conne, d'ailleurs. Pas sympa. Et je me lance et on la vend à une boîte qui s'appelle RIFI, Raffinerie d'Île-de-France et Investissement. Tout est possible. En fait, on était dans un resto. On était, je pense qu'elle était là. Si, elle était là, évidemment. Et on était arrivé avec 15 skateurs. Et on avait bouffé et tout. Vous voyez l'ambiance, il y avait du fric, ça rigolait. Et vous faites quoi dans la vie? Elle nous interpelle. J'ai dit, on est dans le skateboard, madame. Le truc d'avenir. Elle m'a rappelé, elle m'a dit, je vais acheter ça pour mon fils. Et on lui a vendu.
Excellent.
Première boîte vendue.
Et bien...
Première boîte pas payée. Ils m'ont pas payé. Elle m'a payé une partie, elle m'a jamais payé la deuxième.
Ah, d'accord.
Première, fais gaffe, fais ça bien avec des avocats. Ça, c'est toutes les règles que je vais apprendre avec
au
les années.
Au fur et à mesure, ouais.
Ah, je les ai toutes fait, les erreurs.
Parce que là, à l'époque, vous vous dites, c'est temps, et puis et vous attendez le virement.
Il n'y avait même pas de... C'était très, très fumeux. C'était pas très...
Ouais.
Unclear. C'était très foireux. Les bilans n'étaient pas tenus. Enfin, c'était n'importe quoi. Je ne sais même pas comment j'ai traversé ce truc-là sans avoir plus d'emmerdes que ça, finalement. Et j'ai l'impression que le pays laisse, quand t'es très jeune, tu sais, on parle, j'ai les gars, j'ai 19, 20 ans. Là.
Ouais, c'est hyper jeune.
J'ai des employés. J'ai t-shirt, j'ai 17 ans.
Ouais.
Donc là, j'ai 20 ans, 21 ans. Et là, je découvre la mode. Ah, là, on devient ouf. Voilà. Donc, on fait 2-3 fêtes.
Ouais.
Évidemment, notre popularité chez les meufs est très haute, donc on kiffe. Elle a dit, il faut qu'on fasse un truc. Et c'est là que je fais ce truc-là à l'épicerie avec Artus et un mec qui s'appelle Antoine. Ça, ça a été très long parce qu'il a fallu le financer, tout ça. C'était relou. Et ouais, c'était marrant comme expérience. Alors, il y a des gens qui, quand ils font des projets, disent, ouais, il faut trouver la thune, c'est galère. Ben, les gars, si vous êtes assez malin, ça peut être le meilleur moment du projet. Tu fais, tu galères, mais t'as des bons souvenirs. Mmh. On a vu plein de gens et tout.
Parce que là, vous aviez un projet, mais vous cherchiez de la thune pour pouvoir le faire. L'épicerie.
On avait un peu de thune, il en fallait un peu pour faire l'épicerie, il fallait trouver le local et tout. Et à ce moment-là, on est en train de travailler sur ce projet, qui est un concept store. On ne savait pas que ça pouvait s'appeler comme ça, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le nom.
Ouais.
Et j'ai vu là dernièrement que le nom avait été inventé par un sociologue italien en 1990. Mais là, à l'époque, il n'y avait pas de sociologue. Je ne sais pas qui c'était. Il n'y avait pas, en tout cas, je ne l'ai pas vu. On parle du milieu des années 90. Et il y a ce gros mouvement minimal à cette époque. Tout est minimal. Il fallait que ce soit cube blanc et tout. Colette ouvre.
Donc là, on est en 97 ? Non, 96, 97 ?
Là, on est 97.
Ouais.
Elle ouvre juste avant nous. Et on est là, putain de sa mère. On y va, on devient ouf. On devient littéralement ouf. Mais pas qu'on aime, on déteste. Et on voit un skateboard. Qu'est-ce qu'elle fout là, cette truc de mode? Nous, on voulait pas mélanger, on était des intégristes. Le skateboard et la mode n'ont rien à foutre ensemble. Nous, on est dans la mode pour choper des meufs. Il fallait pas mélanger. Torchon et serviette. Et on arrive au skateboard et c'est là que je fais le t-shirt Paulette. Et je dis, viens, on fait un t-shirt contre eux. Et le délire du détournement, c'est vraiment un truc de skateboarder. Donc, elle a fait t-shirt Paulette avec écrit en dessous. Avant, il y avait écrit food, design, je sais pas quoi. Et nous, c'était dans la même typo, de la balle, c'est de la caillasse. Et derrière, il y avait écrit à Paris, si tu es beau et belle, si tu es mannequin et tout, si tu as plein de meilleurs amis. Parce que les gens de la mode avaient beaucoup de meilleurs amis.
Ouais.
On était très étonnés par le nombre de meilleurs amis que les gens de la mode avaient. My best friend. What the fuck, tout le monde. Ils ont compris que meilleur ami, c'est un truc que tu pouvais pas même mettre au pluriel.
Ouais.
Tu vois. Et non, apparemment, il y avait beaucoup de meilleurs amis chez ces gens-là. Et on savait pas comment ils géraient. Il y avait une schizophrénie par rapport à ça. Et on avait une schizo. La partie gauche droite avait ce meilleur ami. Là. Bref. Et on était très, ça nous, voilà, c'était assez marrant.
Ouais.
Donc, on fait Paulette. Et puis, Paulette, là, ça y est, il y a Buzz qui commence sur nous. Ça y est, la lumière a fait.
Ça, c'est vraiment Paulette qui a mis
sur
le
buzz. Sur l'épicerie, ouais.
Ouais.
Moi, j'ai toujours une théorie. Si tu veux être gros, tape un gros. Si t'es tout petit, tu veux, voilà, tape un gros, mais tape-le.
Comme il faut.
Ouais, amuse-toi, fais un truc. Et là, le L fait un papier sur nous. Et c'était Alexandre Assenès qui était encore pigiste au L.
Ouais.
C'était du back in the days, tu vois. Et Alexandra, elle fait un papier. Ça, je connaissais pas tous ces gens-là. Et c'est marrant parce que le papier sort et on met un, on dit, nous, un truc ultra radical. On a fait 200-300 t-shirts, on les a imprimés. Et on dit que nous, on va jamais les vendre. Parce qu'on n'est pas comme Colette. On va les donner. Des sweatshirts.
OK.
Et on les a littéralement donnés. On a donné Pedro Winter, à l'époque c'était notre pote, il faisait du skateboard, il l'avait. Les mecs de Respect, les boîtes de nuit, les clubs qui étaient mes vrais potes, là, tout ça, David Blow, tout ça, c'est vos bons potes. Ils l'ont pris, enfin tout le monde l'a pris. Et il y a eu un buzz et on a mis un numéro de téléphone sur l'article du L qui était faux. Donc les gens, on l'a pas fait exprès. J'ai donné mon vrai numéro, mais j'ai peut-être trompé sur un chiffre. Et donc, à l'époque, il y a difficilement des portables, pas tout le monde a, il y a des bebop, des trucs comme ça, mais ouais, c'est rare, les gens n'ont pas de portable. Et tout le monde se bat pour avoir le t-shirt et on devient un truc culte. Qui sont ces mecs? Qui sont, tout le monde parle de nous, c'est un buzz. On fait une respect à l'épicerie au Queen, 2500 personnes déboulent, on avait fait le carton, il y avait buzz sur nous, tu vois, il y a buzz. C'est à ce moment-là qu'on arrive à trouver par hasard l'argent. C'est un mec qui s'appelle Robert Koubatian, un vieil arménien de 80 piges, qui nous donne la thune qui manque pour faire la boîte. Pour envoyer.
Parce que l'histoire des t-shirts, il n'y a même pas de boîte encore. Il n'y a pas de local, il n'y a pas de boutique, il n'y a rien.
J'ai un peu d'oseille, j'ai fait ces t-shirts pour faire monter le buzz.
D'accord, ok.
Mais c'est là où on m'appelle le roi du buzz. Tu vois, c'est à ce moment-là où on me dit le mec est fort en buzz.
Ouais.
Je savais pas ce que c'était le buzz. Je l'ai appris par accident.
Après,
un petit accident industriel qui a fait que.
Ouais.
Et là, mais c'était vraiment très radical parce que d'abord ils étaient de très bonne qualité, mais en plus de ça, je dis, on ne les vend pas, on va les donner, on va les jouer grand prince. Et mais Arthur, tu dis, mais t'es ouf ou quoi, tout le monde en veut. Non, on va les donner et on va choisir à qui on les donne.
Ouais, c'est ça.
Et ça a pesé. Et voilà. Donc tout le monde a allé chez Colette et que ce soit Charles Paulette. Genre, je reçois un coup de fil de Sarah de Colette qui me dit, je connaissais pas Sarah.
Et je me rends pas compte. À l'époque, déjà, Colette, ça a fait le buzz dès le départ?
Non.
Ça a été long, quand même.
On fait partie des gens qui ont fait le buzz par accident, qui les ont aidés à avoir. Oui, il y avait un peu de buzz.
Ouais.
C'était pour nous, les Parisiens. Alors, ce qui est marrant, à l'international, ça a buzzé.
Ouais.
Mais pour les Parisiens, c'était un truc de snobinard. Ouais. Tout le monde disait, putain, mais va pas là-bas, t'es un plouc. Je rigole pas, c'était un truc de plouc.
D'accord.
C'est genre ultra snobinard.
Ouais.
Okay. C'était un cube blanc, on comprenait rien, la musique était trop chelou. Tu vois, elle était pas intégrée à la ville. Et puis à l'époque, c'était pas vraiment Sarah qui dirigeait le truc, ou sa mère. Enfin, sa mère évidemment était là, mais c'était Milan Vukmirovic. Donc le mec était ultra snob, il était dans la mode hardcore. Et voilà.
D'accord.
Et puis pour moi, Victoire de Taillac qui était avec Sarah, c'était la caricature du 7e arrondissement. Hein? Bon, je parle de ma femme, là.
Ouais, depuis,
avec qui j'ai trois gosses, avec qui je vis depuis 18 ans. Mais à l'époque, moi, c'était waouh!
C'était formidable.
Le monde, plus truc. Donc, Sarah m'appelle et me dit, est-ce que je peux t'acheter tous les sweatshirts? On veut les vendre à la boutique. On trouve ça l'idée rigolote. Parce que Sarah est très maligne. Si tu tapes dessus, elle va essayer de retourner le truc à sa faveur. Et elle est forte pour ça. Et je dis, non, fuck it, non. On les garde, on s'en bat les couilles de vous.
Ouais.
On fait contre vous. La guerre, elle commence, il y a l'épicerie qui arrive. La meuf dit, c'est quoi ce bordel? De quoi il parle? C'est un nom d'un hanout. Et là, pendant ce temps, nous, on travaille.
Ouais.
Parce qu'on rencontre Marc Jacobs, on rencontre Jeremy Scott, Niels Van Clavers, il y avait Van Sloob. Tous ces designers qui étaient très à la mode à l'époque, Shinro, comment il s'appelle, c'était un japonais, Nakamura, qui faisait une marque, il y avait tous ces mecs-là, non c'est pas Shinro Nakamura, j'oublie son base, il y a plein de mecs.
Mais comment vous arrivez à les solliciter?
On traîne déjà avec Jeremy Scott qui est à Paris.
D'accord, ouais c'est ça.
On est dans la scène, tu vois, on est là, Eric Allais, tout ça, on traîne avec tous ces cums, voilà, c'est... Eric Allais, que j'appelle Tintin de façon gentille, parce que j'aime beaucoup Eric, il te dit, on allait dans leur teuf, on n'était pas pédé, on découvre un monde, tu vois. Je pense qu'on arrive avec cette image un peu, on connaît pas le monde d'Ep, donc pour nous c'est des folles et tout, et Et après, au bout d'un moment, on voit que ces mecs comme nous, on se tape des barres de rire, on traîne rien que tout ce monde-là. Et donc, on connaît pas, tu vois, on vient du skateboard, c'est hyper viril et macho à deux balles, mais là, on découvre, on se marre, là, vraiment, on est bonne vibe, et là, on traîne, et puis après, un jour, on se retrouve, il y a, comment il s'appelle, André Walker, qui me dit, André Walker, c'était vraiment le sauce, avec qui on rigolait beaucoup, et André, il dit, viens, je te présente Marc, et tout, et puis nous, on a cette idée complètement folle, on dit, les gars, on va vous demander une collab, on était les premiers mecs à faire ça, personne n'a fait ça,
ouais.
Mais notre idée de la collab n'existe toujours pas encore maintenant. On allait voir Marc Jacobs, on a dit, écoute, Marc, on adore ce que tu fais, mais on va faire une collab. Il était OK. Donc, on est avec Murphy à New York et tout, Duffy, Robert Duffy, son associé. On était à voir New York et tout. Et on lui dit, non, nous, on veut faire l'épicerie pour Marc Jacobs. Truc inversé. On veut pas que vous faites des trucs pour nous. On va vous donner notre version de ce qu'on pense de vous.
Mais comment vous avez l'idée à cette époque-là?
Je sais pas, je suis fou, mais aujourd'hui, je suis toujours pareil. Et donc, le mec, il m'en regarde, il fait, ah bon, ok. Tu sais, c'est tellement déstabilisant, ok.
Il dit ok.
Ouais. Paul Smith dit ok. Tous ces mecs, ils disent ok. Et on ouvre la boutique avec ce genre de délire.
Mais
il y a Gaspard Yurkevitch, ouais. Il y a tout. Alors Gaspard, lui, il nous fait un truc. Jeremy Scott, il y a le t-shirt, l'épicerie pour Jeremy Scott, que lui n'a jamais vendu, mais qui était que dans notre boutique. Tout le monde disait oui.
C'est ouf. Incroyable.
Et à ce moment-là, je travaille depuis quelques années avec, depuis King Size, avec le même graphiste, qui s'appelle Yorgo Tloupas, qui est le DA de Vanity Fair. Et Yorgo est là, dans la bande, et il fait les trucs avec moi, et c'est marrant. Et donc, on fait tous ces trucs-là, c'est un carton, on les vend. Et puis, la boutique est folle, c'est n'importe quoi, c'est mal géré. J'ai une anecdote assez rigolote. Un jour, il y a un magazine qui veut nous interviewer, qui est très à la mode. Nous, on sait pas qui c'est, il s'appelle Wallpaper. Ça commence à être le gros magazine anglais. Ils disent, ouais, we're coming to interview you in the morning, c'est OK. Et je dis, nous, on dormait des fois dans la boutique.
Ouais.
On est ghetto, hein. C'est dans le Marais, rue du Temple. Il y a personne rue du Temple à cette époque. C'est vraiment un truc de chinois.
Ah
c'est
ouais.
Que des usines, il n'y a rien de ce qui ressemble maintenant à la rue du Temple. C'était vraiment sale, hein, la rue du Temple. C'est au fond d'une cour, c'était ghetto. Et la boutique d'arrivée, c'était l'opposé, c'était pas blanc, minimal. C'était, on a peint, fait nous-mêmes les travaux. Il y a un striptease, tu vois l'émission Striptease? Il y en a un sur moi à cette époque. Si les gens veulent regarder, vous cherchez Ramdan pour Ramdan. On voit moi en train de monter l'épicerie.
Excellent.
Et ouais, déjà faire un striptease, je peux faire une émission entière sur comment je me suis retrouvé à faire un striptease, mais l'émission, mais déjà, faut être fou, faut être un cas social pour avoir un striptease.
Ben ouais.
Ben voilà, j'étais un cas social, mais tout à fait assumé.
Ouais. Et conscient.
Oh, mais moi je m'en bats les couilles.
Ouais.
C'est ma théorie, moi je m'en fous quoi.
Mais c'est ça, je crois.
Hein?
Le secret, il est là.
Je ne sais pas si c'est un secret parce que je ne le cache pas. Mais...
non, mais c'est l'attitude, c'est la façon d'être qui, peut-être qui permet de...
Rien à perdre, rien à gagner. Je,
ouais.
Je m'en fous de la thune. Elle est là, elle n'est pas là. Dernier de mes soucis, tu vois. C'est,
j'ai l'impression qu'il faut que ça soit amusant et qu'il faut que ça soit délire et que...
Non, c'est... Ouais, il faut que ce soit marrant, il faut que ce soit une bonne expérience pour moi.
Ouais.
Voilà.
Mais là, vous gagnez de l'argent ou pas? Ou c'est vraiment c'est juste
à
l'équilibre?
Ouais, je suis à l'abri.
Ouais.
Je suis à l'abri. Ouais.
Mais à l'époque de l'épicerie?
Mais non, je gagnais 800 francs par mois.
Ouais, d'accord.
On dormait à la boutique.
Vous dormiez à la boutique, quoi.
On dormait de temps en temps à la boutique. On dormait chez les meufs, tu vois.
Ouais.
Mais j'avais une meuf même à l'époque, mais... Ouais, voilà. Alors, les mecs de Wallpaper, je continue l'histoire, arrivent. Ils frappent à la grille...
Ouais.
La boutique est fermée, elle doit ouvrir à 11h et nous on dort encore, donc on ouvre. Il y avait une PlayStation, on jouait à la PlayStation. On ouvre le truc et on est tous les trois en caleçon.
Ouais.
Et qui dit, oh, on revient, on fait non, restez là, on fait l'interview. Mais vous venez de réveiller, le mec hallucine, le wallpaper hallucine. Je dis non, asseyez-vous, on va faire l'interview. On les amène dans une petite pièce, tu vois, on fait des interviews. Et nous on avait une technique qui faisait rire, qu'on utilisait, on remplissait des bouteilles de gin. Nous, j'ai jamais bu d'alcool, ni Artus. Et ni Antoine. On buvait pas, on fumait pas, on prenait pas de drogue. On est ultra radical. Jusqu'à présent, j'ai jamais bu d'alcool de ma vie. Maintenant, là, aujourd'hui. Et jamais fumé un ouinge, rien. Ultra radical. Straight edge. C'est pour ça qu'on est très amis, tous ces gens-là. Et ils arrivent, et nous, on avait vidé des bouteilles de gin et de vodka, on les avait remplies d'eau.
Vous buviez.
Et le matin, ils arrivent, ils faisaient l'interview, et nous, on disait, vous en voulez ? Et on prenait des gorgées, et les gens pensaient qu'on était des alcooliques et tout. À l'époque, Loïc Prigent nous appelait les jeunes branleurs branchés dans un article de l'Express, je me rappelle bien. Tout, on était vraiment les branleurs. Voilà, on était dans ce truc un peu rock. Truc. Et ouais. Donc, la boutique qui était l'antithèse de Colette et l'antithèse de toutes ces boutiques qui se faisaient à l'époque. Donc, il y avait toutes ces marques minimales. Nous, on était l'opposé de ça. Et on faisait un truc assez carré. Ouf. C'est que la boutique, elle ouvrait. On faisait une boutique sur le thème du hard rock.
Ouais.
Toute la boutique était une boutique sur le thème. Tout le merchandising hard rock, AC/DC, Def Leppard, tous les trucs. La boutique était que ça. Elle fermait sans qu'on le dise à personne. Un jeudi soir, les mecs, un mercredi, il n'y avait aucune logique. Et à l'arrivée, c'était une boutique de confiture de lait venue d'Argentine. Le lendemain, ça pouvait durer deux jours. Et après, boum, ça devenait... qu'est-ce qu'on avait fait ? Une boutique sur le vin. On avait trouvé un vin, on avait refait une étiquette, je me rappelle, on avait refait l'étiquette à être amoureux de rire. C'était un château, l'épicerie. Et l'étiquette, c'était le château, mais on avait mis une BMW dans le même dessin, une petite BMW cabriolet, racaille et tout. C'était ultra marrant. Les gens, on faisait que des collectibles. Un peu ce qui se fait maintenant. Là, maintenant, les gens font ça, first day ou des trucs comme ça, ouais. Comme le Supreme et tout. Nous, on faisait ça quand ça nous passait par la tête. La plus grosse fête, celle qui a marqué tout le monde, c'est la fête camouflage. Le camouflage n'est pas à la mode. Nous, on le ramène à la mode. Après, tout le monde l'a repris, tout. Mais nous, c'est moi qui l'avais senti, le truc. Et j'étais tombé sur un stock de vieilles baskets Adidas de l'armée allemande. Camouflage. Ils faisaient des baskets camouflage pour l'armée allemande. Donc, j'ai acheté tout le lot. Pas cher. Sublime. Et on ramène ça. Et on fait une fête avec Jeremy Scott. Et là, on pousse le truc très loin. On transforme la boutique en caserne. Mais il y a des articles de gens, j'en ai plein dans mes archives, de gens qui parlent que de cette fête. Et on loue des tanks. On va chercher des tanks. Il y a un truc de location pour film.
Ouais.
Des jeeps. On demande à tous nos potes skateurs et tout de s'habiller en militaire. Et on envahit le marais. On attaque le marais. Une invasion avec trois tanks qui rentrent, des jeeps, moi habillé en général. Les gens s'en rappellent encore. Dans la cour de nos voitures, le local qu'on avait était la propriété de Heidenmold, le maire du 3e, qui est toujours le maire du 3e. Et ma maîtresse avait laissé la voiture dans l'entrée de la boutique. On lui a dit, enlève ta voiture. Elle a dit non. Donc on a mis un tapis rouge qui passait sur la voiture. Il fallait passer sur une voiture, monter sur une voiture, écraser la voiture et rentrer dans la boutique. Donc tout le monde est passé sur la voiture. La voiture, elle était détruite. Punk à fond. Ouais. Le mec me hait encore. C'est mon maire là dans mon bureau là. Je me cache quand je le croise dans la rue. Et on a ri. T'as la musique que jouait Jérémy, Ariel Wiesman a joué de la musique militaire, que des trucs de ouf. On a ri ce soir-là, mais voilà. Et on faisait des fêtes très très souvent. Fashion Week, il y avait des fêtes tous les soirs chez nous. On était connus pour ça. Et quand t'allais en dessous,
ouais.
Il y avait une cave, il y avait le VIP room. Et on savait que tous les gens voulaient aller au VIP fumer ou faire des trucs. Prendre de la gueudreau. D'ailleurs, on a frappé un mec un jour qui avait pris de la gueudreau là-bas. Mais le VIP, c'était un endroit où tout assis, qui était sordide, qui était l'endroit le plus sale. Parce qu'on voulait pas, nous, les VIP. Donc Et là, t'avais un écran où on jouait des films de cul hétéro. Donc il y avait un film de cul qui a marqué beaucoup. Anna Wintour et Liz Tilbury, qui était la boss du Harper's Bazaar et tous ces trucs, ont joué des films de cul. André Léontalé était tout le temps là parce que ça le faisait rire. Mais c'était ça le niveau.
C'était high level, ouais.
Mais André, je l'ai recroisé. J'ai pas vu André André Léontalé pendant 15 ans. Je l'ai vu à New York le jour. Il me dit, oh man, the parties. Et il y avait des films de cul. Et les gens savaient qu'on était juste les frappadingues, tu vois. Ouais.
Et ça a duré combien de temps?
Ah, ça dure pas longtemps, ce genre d'embuber, d'ailleurs. Ça dure deux piges et demi.
Ouais.
Ça dure pas, ce genre d'embuber. D'abord, nous, on est fatigués très vite et on s'est embrouillé.
Entre vous?
Ouais, parce que, en fait, moi, je sortais avec une meuf qui m'a pas dit qu'elle se tapait Arthus et Antoine ensuite. Ah. C'est parti en lieuvrier.
D'accord. Ok.
C'est pas grave. Moi, je m'en foutais de cette meuf, mais les deux autres, ils avaient l'air d'être un peu plus intenses dans la relation. Donc, t'as un gros groupe japonais qui vient nous voir, qui s'appelle Mitsubishi, qui va nous acheter.
Ouais.
Et devant eux, on s'embrouille.
C'est embêtant. Hein.
Ouais, gros, on s'est quasiment battu devant eux.
D'accord.
Dans la réunion.
Ok.
Donc on arrête comme les rockstars.
Au sommet de la gloire.
Pas au sommet parce qu'on n'a pas de fric, on n'a pas mis un sandwich de déco, on a tout. Ah ouais. Nous, on a coulé la boîte sur une fête.
Ah, ok.
C'est la célèbre fête de du 3 mars 99.
Ouais.
La fête Heidi sur un bateau. Tout le monde s'en rappelle, 2000 personnes arrivent sur un bateau, grosse fête Heidi avec. On s'embrouille avec Trisha et l'autre Jones, là, mes couilles. Mais on s'embrouille, mais on les a maltraités. Et quand t'arrivais dans la fête, t'avais une grosse photo de moi qui faisait ça à tous les gens qui arrivaient. Après, à la porte, j'allais aider à la porte. Et à la porte, je disais, je mettais à la porte. Il y avait beaucoup de monde devant le bateau. Et on était limité sur le bateau.
Ouais.
C'était un gros yacht incroyable, super cher. Je disais, on laisse rentrer que les bonnes meufs. Non, bref, scandale. Bref. Toi, t'es bonne. Toi, t'es avec cette copine. Non, tu la laisses dehors. Tu peux rentrer seule. Et c'était comme ça, très dur. C'était vraiment rock'n'roll. Là.
Ouais.
On a foutu n'importe quoi et le bateau a été littéralement détruit. On était caution du bateau. Il y avait 300 000 francs de caution. Évidemment, le matin, le mec nous appelle. On va visiter le bateau. Il y avait une sorte de boule en cristal au bout de l'escalier fait qu'il avait été enlevé. Tout avait été détruit, littéralement terré, détruit. Donc
il a gardé la caution et vous êtes reparti une main devant, une main derrière.
Non, la boîte, elle a coulé sur la fête. Quand le mec a dit, on s'est vu avec Antoine et Arthur, c'est bon, on arrête l'épicerie, c'est mort.
Okay.
Après, les Japonais nous ont appelé. Et à ce moment-là, apparaît un Japonais qui s'appelle Riku Suzuki, qui a un groupe énorme au Japon qui s'appelle Sazabi, qui dit, je l'avais rencontré 2-3 fois pendant la boutique, il dit, viens, moi, je pense que tu as du talent, il faut qu'on travaille ensemble.
Ok.
Voilà. Et après, il se trouve que ce gars-là est marié à une femme qui s'appelle Sophie de Taillac, qui est la sœur de Victoire.
D'accord.
Donc, il m'invite dans les fêtes où les Taillac sont là, et je recrois celle que je pensais être la duchesse du 7e, tu vois. Mais en fait, pas du tout, elle n'était pas du tout comme ça. Et voilà, après, nous, notre histoire a commencé, mais. Ce Japonais m'a dit, viens, j'ai un groupe au Japon et j'ai une chaîne qui marche pas du tout, je veux que tu m'aides. J'ai 24 ans, mec. Ingérable total. J'ai plus de thunes et je vis dans un bureau rue de Lyon à Bastille. Dans un bureau. Et ce bureau va me permettre de développer ce projet qui va être le gros projet, un des plus gros projets de ma vie. C'est Ende au Japon, qui est une chaîne qui a fait plusieurs centaines de millions d'euros après. Voilà. J'arrive au Japon, je crée toutes ces boutiques et je gère des centaines de personnes. J'ai 24 ans et je suis littéralement fou.
Mais comment il vous donne les clés de la baraque? Ça paraît complètement dingue.
Il fait partie de ce que j'appelle les retail heroes, tu vois, les Cohen de Bonpoint, Colette. Et puis t'en as d'autres, évidemment Boussico du Bon Marché. Tu sais, pour moi, des héros, des gens qui ont fait des trucs. Au Japon, t'as 3-4 mecs. T'as Sasaki-san qui vient de m'envoyer un mail.
Ouais.
Suzuki-san qui est celui-là qui a Sazabi, celui avec qui je vais travailler. Et puis c'est le gars qui a fait Bim, ce mec qui a fait Tomorrowland, le mec qui a fait tous ces trucs-là, tu vois. Sazabi, les mecs qui ont fait Trace, ils ont tous des empires maintenant. Ces mecs-là, maintenant, c'est des vieux dont j'étais héros. Maintenant, je travaille avec eux.
C'est énorme.
On est potes maintenant. C'est marrant, là, j'ai reçu un email de Sasaki. Et je fais un truc avec lui, on fait une boutique ensemble. C'est maintenant mes héros qui sont devenus mes collègues. C'est ça la vie, putain, c'est génial. C'est quand tu transformes tes héros en collègues.
Ouais, ça c'est cool.
Donc voilà, je fais un day, je découvre un architecte qui va devenir une star mondiale qui s'appelle Katayama, qui maintenant est le mec qui fait toutes les boutiques Uniqlo dans le monde et tout.
Ouais.
Je découvre plein de choses et voilà. Mais ma passion du Japon avait commencé avant l'épicerie, hein. Je ne parle pas, mais.
Et là votre rôle, c'est quoi? C'est la direction artistique? C'est
un truc qui n'existera plus jamais. C'est je dessine tout, de A à Z.
D'accord.
De la boutique aux vêtements, à tout. Je dessine, je crée le concept et tout. C'est un truc de taré. J'ai des photos, vous l'avez jamais vu ça?
Non.
Quand je fais ce projet, j'ai dit, on va partir dans Cube Noir. Invasion islamique de la mode.
Ouais.
On part de la Mecque. Et le mec dit, mais ils disent, ok, c'est avant septembre 2001, donc tu fais ce que tu veux.
Ouais, c'est assez open bar. Enfin, les gars, ils font confiance, quoi. Ils y vont.
Voilà le poster que j'envoie à tous mes potes. C'est un poster géant pour annoncer mon arrivée. Masturbation is not a crime. My first Rolls Royce. N'importe quoi pour dire à tous les mecs, je prends over. C'est une chaîne de vêtements pour salarié woman. Les mecs s'attendent pas à ce que moi j'arrive. Et ça devient un truc complètement ouf. Voilà. tout est parti, tout est dessiné à la base d'un cube noir. Donc tout est, même les shopping bags, la press card, c'était un cube noir.
Ouais. C'est ouf.
Shopping bag.
Mais là, quand vous avez 24 ans, enfin, je sais pas, vous commencez par quoi quand on vous donne les clés d'un projet comme ça et
non,
même.
Non, c'était très structuré. J'ai toujours été très structuré.
Ouais, c'est ça quand même. C'est dans le processus créatif, c'est toujours très structuré quand même. Vous partez de quoi d'ailleurs?
Je scénarise tout.
Ouais,
vous... Je pars d'un scénario.
Donc vous montez plus un radical film dans votre tête.
Non, je parle, je pense comme un client. Genre dans la boutique, c'est comme si, c'est comme ça, je l'écris.
Ouais.
Toutes les boutiques du monde que j'ai fait, toutes les celles que j'ai fait, c'est tu rentres dans la boutique, ça ressemble à ça, tu vois ce truc là, et la musique est comme ça, ils vendent ça. Je l'écris.
Ok. Ça c'est le processus créatif.
Ouais,
de...
Et là j'arrive, c'est la boutique est un cube noir, il y a pas de vitrine, tout est cubique, tout est un truc. C'est tellement mystérieux que t'as envie d'entrer. Et après jusqu'au price card, jusqu'au truc, j'ai tout scénarisé. Après les trucs qui arrivent sur le tard, mais à ce moment-là, c'est très clair.
Et là, c'est des voyages incessants au Japon?
Non, j'habite là-bas.
Ah ouais. D'accord. Ouais. Et vous parlez japonais alors?
Nihongo shiburu.
Ça veut dire.
Je parle japonais.
Ouais. Ok. Et vous apprenez sur le tas là-bas ou ça s'est fait avant?
Non, c'est sûr. J'ai appris. Ça fait 20 ans que je vais tous les mois, donc j'y étais il y a 3 jours encore là.
Ouais.
C'est la maison. Moi, quand je vais au Japon, je vais à la zone, mais.
Ouais.
C'est pas autant la maison qu'ici. J'ai pas de maison. Voilà. Et donc, j'ai beaucoup de potes. D'ailleurs, en bas, il y a qu'un pote à moi qui est japonais qui dort à la maison, là.
D'accord.
C'est la zone, mais.
Ouais.
Tout le temps du monde. Donc, voilà. Et ouais, je fais ça. Et puis, j'amène une équipe avec moi. On rigole.
Mm.
Sauf que. Je m'embrouille avec le grand boss. Mais violemment, mon beau-frère.
Pourquoi?
Parce qu'il a voulu modifier un truc dans le projet. Les grands patrons japonais veulent mettre leur touch. Et moi, c'était.
C'est tout ou rien.
C'était parfait. Attends, je vous explique un truc. Je gagne 40 000 dollars, 40, 50 000 dollars par mois. J'ai 24 piges. Je viens de passer de 800 francs à 50 000 dollars par mois.
C'est un délire.
Eh ben, je fais le projet. Et le jour où il ouvre, je me barre. Nique sa mère.
Pourquoi?
Parce qu'on a touché. C'est pas moi à 100%. Si je mets mon nom sur un truc, il faut que ce soit moi à 100%. Faut pas que ce soit 98%, je m'en fous. Mais vous pouvez appeler les gens qui ont travaillé avec moi, ils disent, il est fou, il a rien à perdre. Qu'est-ce que disait un de mes collaborateurs les plus proches, un très bon ami à moi qui s'appelle Johan Laroumec, Johan. Il disait, Ramdan, c'est le mec avec qui tu négocies, t'arrives sur la falaise, il menace de sauter, si tu fais pas le truc, il saute, il en a rien à carrer. Donc, il faut dealer avec ça. Il saute. Et moi, ce que je dis dans les négociations, c'est que la meilleure des négociations, c'est qu'il n'y a pas de négociation. La meilleure, c'est celle-là. C'est celle qui ne négocie pas.
C'est pas win-win. C'est pas win-win.
C'est-à-dire?
Non, mais dans la négociation, on dit toujours que pour une bonne négociation, il faut que tout le monde soit gagnant et que, etc.
Il n'y a pas de, il y a que, je m'en fous.
Il n'y a qu'un gagnant.
Mais en plus, ça sous contre moi, mais il y a un truc dont on ne parle pas, c'est qu'on n'a pas parlé de quelles études je faisais dans ce lycée. Je suis comptable de formation. Donc pour moi, l'aspect rentabilité est primordial.
Ouais.
Il faut que ça marche. Il
ouais.
faut que ça rapporte de l'argent ouais. aux gens à qui ça appartient. À ouais. moi ou aux autres ouais. pour qui j'ai travaillé. Donc à partir de moi, où tu as des gens en face de toi, qui sont des gens qui sont là pour cette partie-là,
ouais.
que tu maîtrises toi-même,
ouais.
ils sont à rien. Toi, tu sais où tu vas. Ouais. Tu sais que ça va marcher. Tu sais que si tu enchaînes ça et ND a marché, tous les projets ont marché. J'en ai planté des projets, mais c'était mon argent et je sais pourquoi je les ai plantés. Mais je sais où je vais. C'est-à-dire que moi, quand je fabrique quelque chose, la marge, les coûts, la logistique, toutes ces questions compliquées qui n'intéressent pas beaucoup les créatifs, c'est des questions primordiales pour moi. Pour moi, la logistique, la façon dont on fait les choses est quasiment plus importante que...
Le produit
lui-même.
Ouais.
Comment on traite les usines avec qui on travaille, les employés des usines, comment ouais. avec leur notre relation est importante, et puis ouais. surtout, l'argent. Moi, je fais plus de projets avec des couèves en dessous de 7-8. Ça m'intéresse plus. On gagne pas d'argent. Tu peux pas bien payer tes vendeurs et tout. Au bout d'un moment, il faut payer les gens. Donc, au bout d'un moment, voilà, c'est des trucs pour moi. Les gens sont toujours étonnés. C'est que la première question que j'ai, c'est ce que ça va être rentable. C'est moi qui ouais. la pose. C'est pas les mecs en face de
ouais.
moi, c'est
ouais.
moi.
Ouais.
Là, ça va pas être rentable. Là. Ça va pas marcher, cette histoire.
C'est pas viable.
Ouais, on peut se permettre un truc qui rapporte pas à partir du moment où ça génère de la presse, énormément de trucs autour. On peut se le. Ouais, on peut se gérer. Ouais. Mais ça, voilà. Mais c'est primordial pour moi. J'ai cette phrase d'ailleurs qui est sublime. Je ne pense pas qu'on puisse dire que je suis un directeur artistique. Disons que j'ai peut-être plus le sens des responsabilités qu'un directeur artistique parce que j'ai eu très tôt une expérience industrielle. Je ne suis pas un genre à faire des gestes artistiques. Je pense comme un investisseur, comme un chef d'entreprise. Lorsque j'aborde une marque ou un nouveau territoire, j'y vais avec une logique entrepreneuriale. Avec l'idée que le beau et le bon n'est pas un luxe, pas un caprice, mais le plus sûr et le plus court chemin pour bien vendre, pour mieux vendre.
Ouais.
Le beau, chez moi, ça vend. À partir du moment où vous expliquez aux gens que le beau, ça vend,
tout
et qu'il faut que ce soit très beau, parce que ça vendra mieux.
Et pourquoi il faut absolument, en France, après je sais pas si c'est comme ça dans les autres pays, au Japon, aux États-Unis, mais il faut mettre les gens dans des cases. Si t'es un DA, tu peux pas être un entrepreneur. Si t'es un entrepreneur,
c'est pareil,
tu peux
pas
être un DA.
Dans le monde entier, c'est pareil. Le monde entier, c'est pareil.
Ok.
Genre, l'ambiance, les Français, on n'a pas... Arrêtez.
C'est partout pareil.
Ouais.
Ok. Très bien. Après l'épicerie, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a.
Oui, il y a un day. Après, je reviens, je monte truc. Attends, j'ai mon CV, il est long comme un
bras.
Ouais,
il est super long. On peut en parler toute la journée. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est l'idée de Bouli, Officine Universelle Bouli. Ça part de quoi au départ?
J'ai fait Sire Trudon avant.
Ouais, il y a eu Sire Trudon avant.
Donc voilà, puis Sire Trudon, ça. Quand je fais une bougie Sire Trudon, tout le monde me dit, il y a aucune chance que ça marche. Il y a trop de bougies sur le marché.
Ouais.
Ouais, bah, dans ce cas, tu fais rien. Il y a trop de choses, de beaucoup de choses sur les marchés. Donc.
Ouais, on est d'accord.
C'est là où je commence à prendre goût à ce que je vais appeler les marques historiques. Donc, c'est ça qui, voilà. Et au début, tout le monde me prend pour un rigolo. Mais quand je te dis un rigolo, un vrai rigolo, quand je rencontre les gens de Dipti qui me disent, mais c'est quoi ce bêta, à la limite? Il est fou, il connaît rien. Et le succès de Sire Trudon, il est dû à deux, trois trucs. Mais là, une des premières choses, c'est qu'à ce moment-là, j'avais une vraie idée claire de comment on fallait faire un parfum d'intérieur. Ça ne devait pas être un parfum, ça devait être une odeur. Et la subtilité du mot, ils n'ont pas tous pigé. Mais moi, j'étais là, non, il faut qu'on fasse des odeurs, pas des parfums.
Ouais.
Il faut que ça nous rappelle quelque chose. Il faut jouer sur la mémoire olfactive. Il faut que ça... Voilà. Quand on travaille avec moi, il y a toujours une grosse partie théorique avant de commencer. Il faut vraiment que ce soit théorisé. Et ensuite, facile à expliquer aux autres.
Ouais, c'est pas que de l'instinct, c'est quand
même
vachement
théorisé. Ah non, il y a gamberge. On regarde ce qui se passe et on dit, attends, ils sont dans le vrai. S'ils sont dans le vrai, donc on n'y va pas. S'ils sont dans le faux, on y va, on propose quelque chose. Donc, il y avait cette problématique. Donc, on a beaucoup travaillé avec la machine qui s'appelle Headspace. Donc, j'allais dans des endroits, capter les odeurs. Alors, je raconte pas les histoires avant parce que tous les parfumeurs, toutes les grosses boîtes de parfums, les Givaudan, les trucs comme ça, ils ont refusé de travailler avec moi. Ils ont dit... Qui c'est ce mec? Non. Tout le monde. Il n'y a qu'un ou deux qui avaient cette machine qui aurait accepté. On a réussi à faire les premières odeurs. Et on allait dans des endroits, on nous sentait. Donc moi, je ne travaille pas avec des parfumeurs. Ça ne sert à rien, de toute façon. C'est comme si tu demandais, quand un architecte construit une maison, le nom du maçon. Ça ne sert à rien. C'est les mecs qui s'ennuient dans le marketing, qui ont décidé de mettre en avant... Le mec qui a l'idée, c'est le mec qui fait le brief. C'est le mec qui dit, je veux cette odeur. C'est le mec qui dit, OK, c'est ça qu'on va faire.
Ouais.
C'est lui le pas. C'est lui le DA, c'est le truc. Mm. Là, aujourd'hui, c'est le mec qui a fait toutes les propositions, qui a fait le tri, qui est la star.
Ouais.
On est où? On marche sur la tête, là. Mm. Et en plus, pas des génies, c'est comme les chefs, tu vois, c'est des mecs qui sont dans leur truc, tu vois, ils sont curieux de rien d'autre, tu vois. C'est bourru quand même. C'est des mecs qui sont dans leur délire, ils sortent pas de leur délire. C'est des peseurs, tu vois, c'est très technique, c'est pas marrant, c'est pas sexy. Hein.
Ouais.
Parfumeur, il y en a qui ont des choses à dire, mais très peu. Et on fait ces idées, donc je dis, venez, on va aller voir des endroits. Donc on fait la Galerie des Glaces à Versailles, on fait des vieilles bibliothèques, on fait des headspaces, on fait toutes ces odeurs. Et donc ça, c'est une partie des succès, parce que dès que les gens ont commencé à allumer mes bougies, ils ont dit « Oh waouh, ça me rappelle une odeur !» Donc on tape directement dans ce truc-là qui est très... Ouais, l'inconscient, vous savez, c'est un peu le rapport que vous avez comme des villes, comme New York. Comme vous avez, sans être allé à New York, vous l'avez vu dans tellement de films que quand vous y allez, il y a un rapport sympathique.
Ouais.
Vous arrivez, vous faites « Waouh !» Et j'ai ce même... J'ai réussi à faire la même chose avec des odeurs. Donc, c'est wow, ça me rappelle un truc, ça me rappelle la bibliothèque de ma grand-mère, j'adore cette odeur. Bam! Donc, ça a frappé. Gros succès. Et j'invente la cloche sur les bougies, ce que personne n'a jamais fait avant. Mais moi, je ne l'invente pas. Je l'invente à suite à un dîner avec des amis, mais je ne l'invente pas pour la raison qu'on utilise aujourd'hui. Par accident, je voulais protéger les bougies de la poussière et regarder la bougie. Donc, j'ai inventé cette cloche.
Cette cloche en verre, oui.
En verre que tout le monde fait. Ouais. Et après, un jour, quand je la lève, il y a une odeur qui est sortie. Je dis, tiens, on va faire comme si on dégustait le parfum. Et donc, c'est un carton. Donc, voilà. Mais moi, je travaille sur un rapport qui s'appelle un peu... Ça a un nom en sociologie, mais c'est l'hyperréalisme. L'hyperréalisme, c'est donner l'impression que ça a toujours été là. Donc, quand on rentre dans une boutique, et c'est plus vrai, c'est pas la vérité, mais c'est plus vrai que la vérité. Dans votre inconscient. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans une boutique Bully ou à l'officine Bully, ou si vous rentrez chez Sir Trudon, vous avez l'impression que ça... Waouh! Ah, ça a toujours été là. Plus maintenant, Sir Trudon, ils ont fait de la merde derrière. Enfin, ils ont fait leur truc, mais c'est pas terrible. Mais ça, j'ai pas le droit de le dire parce que j'ai signé un contrat, mais je m'en bats les couilles. Mais c'est pas terrible. Ils sont partis dans une direction qui est pas intéressante pour moi. Mais l'hyperalisme, c'est hyper... C'est-à-dire qu'il faut... C'est pas un truc facile à faire, parce qu'il faut connaître les codes par cœur. Mmh. Et donc, on travaille sur des fantasmes. On travaille sur du fantasmé. Donc, quand les mecs, un Américain rentre dans la boutique Bully, il dit « Waouh ! La France, c'est ça !» Et là, on joue sur plein de petits trucs. Donc, il faut connaître... Donc, pendant un an, j'ai appris l'ébénisterie du 17e, du 18e, du 19e siècle par cœur. La gomme laque, les doucines, les loupes, tout. J'ai appris toutes mes leçons par cœur du marbre. Je suis allé dans des musées de marbre apprendre. Ouais. Il y a un musée de marbre dans les Pyrénées. J'ai passé 3 jours là-bas à les apprendre par cœur. Il faut être intouchable. Il faut être un. Je suis un gros bosseur sur ça.
Ouais, un malade du détail.
Ouais. C'est-à-dire que le marbre que vous avez chez Bully, rue Bonaparte, c'est une brèche de Bénou. Il y avait un bloc qui restait, c'est le marbre le plus à la mode du 19e siècle.
Ouais.
Il ne pouvait pas se voir sur le marbre. Il fallait qu'il soit vraiment le marbre à la mode. Au moment où il fallait le faire.
Ouais.
Il fallait dire quel est le marbre à la mode à ce moment-là. Quelle est la brèche que les gens utilisaient.
Ouais.
Donc, on le retrouve que chez moi à l'Opéra Garnier. Donc, c'est super marrant.
Mais tout ça, là, ça prend un temps fou, non?
Bah, il faut travailler, mon pote. Il y a 24 heures par jour.
Mais entre le moment où...
Oh, le travail effectif. C'est la génération, là, tous les gamins. Là, je parle à tous les jeunes qui veulent travailler dans la mode. C'est tous des... Enfin, sans être... Mais là, c'est un peu tous des nains, cette génération. Les mecs, ils travaillent pas.
Ils ont pas envie de bosser.
Mais ils bossent pas. Il y a ce qu'on appelle le travail effectif. C'est la vraie concentration. En 5 heures, on peut produire énormément de choses. Regardez le nombre de choses. Le nombre d'emails que vous pouvez... Moi, je reçois 1000 emails par jour. J'y réponds à mes 1000 emails. Il suffit juste d'être concentré, pas partir à droite, regarder Instagram, regarder tout, parler à ses potes et tout. Il faut travailler à l'ancienne. Moi, j'ai grandi... Mes premiers boulots, c'était avec des vieux de 80 piges, de 60 piges. Le travail, on savait ce que ça voulait dire.
Ouais.
Là, j'ai l'impression que les gens, ils n'ont pas compris. Ils sont plus sur le statut. Ils sont plus sur la regarde, je fais ça. Mais tu fais rien, mon pote. Tu parles. T'es un poseur. Fais. C'est dur de faire. Ça fait mal, tu vois. Si t'es radical, ça fait mal.
Ouais.
Et moi, j'ai mal tous les jours avec mes employés. Ils n'y arrivent pas. Ils ne suivent pas. Je suis né dans un monde qui marche, alors que moi je cours. Donc des fois, il y a toujours ce problème à gérer. Donc les gens me comprennent pas. Mais tu vois, je suis pas une machine sociale. J'ai rien à foutre d'aller faire du salam alayak à tout le monde, à des cocktails de mode et tout. Ça m'a, je sais plus, montre plus ma gueule depuis des années. Ça m'intéresse pas.
Pourquoi? Parce que vous êtes dans le travail effectif.
On n'a pas le temps. Quand je vois tous ces mecs qui passent leur vie dans la chose sociale n'a pas sa place là. Il faut rester concentré.
Ouais. J'aimerais qu'on revienne sur le processus créatif quand même. Vous commencez, vous disiez tout à l'heure, vous parliez de scénario. Mais sur Bully par exemple.
C'est scénarisé pareil. Mais toujours pareil.
Au départ, vous dites je veux faire. Bon, je vais aller collecter tous les secrets de beauté.
Non. Alors ça, c'est une passion que j'ai avec Victoire, mais ça, c'est un truc à côté. C'est comme les gens qui vont à la pêche. Ou le tennis, tu vois. Nous, notre passion, c'est chercher ce genre de truc. Donc, on avait...
Donc ça, c'était un truc de fond depuis très longtemps, quand même.
Ouais, ça fait 15 ans. Depuis Parfumerie Générale, ouais. On avait
travaillé
dessus. Parfumerie Générale devait être ça, déjà.
Ouais.
Et on n'a pas réussi à le faire, donc ouais.
Et donc, Bully, ça commence par quoi? Ça commence par ça. Ça commence par dire... Enfin, la vision, non, moi, non, j'essaie de comprendre.
Ça marche pas comme ça. Ça non, c'est vraiment scénar. Ouais. Bonjour, j'en ai à la boutique, il y a les bougies, il y a les trucs, ça ressemble à ça.
Un jour, vous vous asseyez sur votre fauteuil et vous prenez le. Ouais, et vous commencez à écrire.
Ouais, alors l'écriture, elle a pas pris une journée. Hein. Elle a pris 2-3 mois. Ouais. J'habitais à New York, je travaillais plus. C'est quand j'ai vendu Cyr Trudon, je suis resté 2 ans à New York. Et pendant 1 an, j'ai travaillé sur Bully, théorisé, sans dessiner un produit. Et ensuite, j'ai commencé à dessiner le produit.
Et donc, entre la naissance, le début de l'écriture et la ouverture de la première boutique, ça a pris vachement de temps, non ?
Ça a pris 2 ans.
Ouais.
Mais ça a été un carton tout de suite.
Ouais, ça a pris tout de suite, ouais.
Ouais, parce que c'était bien écrit et bien réalisé. Vous savez le nombre d'ébénistes, le cahier des charges de l'ébénisterie. Là, vous êtes là, ouais. Je dessine toutes mes boutiques moi-même, mais le cahier des charges était violent. Je voulais des doucines, je voulais que ça soit fini à la gomme là, qu'il n'y ait pas de trucs chimiques, il faut que ce soit tout du vrai chêne, rien que du massif, pas un seul. Vous savez combien il y a de vis?
10, non?
Une dizaine.
Ouais, ça, j'ai vu ça, 10-12, ouais.
Ouais. Vous savez combien de mecs ont dit c'est impossible? Tous, sauf un. En 1982, il y a une loi qui est passée pour protéger les ébénistes. On n'a plus le droit de créer ses propres outils. Dans mon cahier des charges, je veux que le mec crée ses propres outils. Je fais un truc illégal. Parce que je veux...
La même main.
Je veux sentir qu'il y a une main, que c'est humain. Vous allez voir dans les cadres et dans la loupe, autour de la loupe, le cadre que j'ai fait autour des loupes, on voit que ça a été fait à la main. Ouais. Je ne cherche pas une boutique d'agencement, je cherche un ébéniste. C'est écrit. Le sol, il fait, c'est de la terre qui a été cuite dans des forêts étrusques qui ont 5000 ans, en Umbria, en Italie. Le plafond, c'est tout.
Et
il y a besoin de vérité. C'est ça l'hyperréalisme. Ouais. C'est que s'il n'y a pas de vérité, dans le fond, ça ne marchera pas. Sinon, on se retrouve tout de suite à Vegas. Quand je vois des marques aujourd'hui historiques qui se lancent, je pouffe de rire. Toute typographie Bully est créée par nous. Le mec qui fait les typos, il dort aussi ce soir. On a travaillé ça hier jusqu'à très très tard ici. Toutes nos typos, c'est les nôtres. On a créé des typos, on s'est pris la tête. Là, je viens d'acheter une imprimerie qui a des vieilles machines du 19e siècle, des Hellenberg du 19e siècle, à Lausanne. Je viens de racheter. Le mec arrive ce matin d'heure. Parce que je veux que notre impression soit faite d'une certaine façon.
Mmh. Voilà. Mais aujourd'hui. Officine Universelle Bully, c'est une multinationale, enfin c'est pas une multinationale, mais c'est une très grosse boîte. Vous êtes présent dans plein de pays.
Petite boîte moyenne, 150 employés.
Et comment ça se gère au quotidien?
C'est l'enfer. C'est vraiment pas ma partie préférée.
Mais c'est vous qui le faites.
Ouais, c'est 95% d'emmerde, 5% de kiff, et c'est la vie. Mais on doit passer par là. C'est un moment à passer. Je fais la police toute la journée. Est-ce que les gens font ça? Fait ci, fait ça. On crée des choses, évidemment, on travaille, mais c'est très difficile pour moi qui est un créatif, un pur et dur. C'est pas ma partie préférée, mais.
Et ça, c'est quoi? C'est beaucoup de bon sens? On apprend sur le tas, sur le terrain?
Non, mais ce que je savais pas faire, c'est développer autant de filiales. Enfin, aujourd'hui, là, par exemple, j'ai 17 boutiques en travaux aujourd'hui, donc en ce moment, au moment où je vous parle. Donc là, je prépare 10 en Australie. J'ai Copenhague qui a commencé hier les travaux. J'ai. San Francisco, New York et Orange County. Une autre à Paris qui va commencer là.
Et là, vous faites accompagner à chaque fois par des spécialistes.
J'ai Nihonbashi, j'en ai trop, j'ai mal au crâne. Ouais.
Mais vous faites accompagner par des spécialistes à chaque fois sur chacun de ces pays ou
vous faites pas tout quoi, seul. Je les connais. Mais vous comprenez pas.
Non, je comprends pas.
C'est la dictature ou la mort. C'est pas la liberté ou la mort chez moi, c'est la dictature ou la mort.
D'accord.
Donc voilà, c'est comme je veux, sinon ça se fait pas. C'est pour ça qu'il restait très pur comme projet. Je pense que, évidemment, il sera tellement pur que les gens, un jour, qui l'achèteront peut-être ou pas, parce que j'ai peut-être pas envie de le vendre, il y aura plus qu'à mettre de l'eau. C'est comme du sirop. On en a pour un moment, là, on peut développer. Il y a tellement de matière. Et on sort le livre, on vient de sortir un livre. Ouais. Au milieu de tout ça, on a sorti un livre chez Penguins en Angleterre, Random House. Là, on sort, c'est Simon & Schuster. Ouais. Je viens de signer 10 épisodes sur Netflix sur les secrets de beauté. On a commencé à shooter, là, on shoot de temps en temps.
C'est ouf.
C'est monstrueux.
Ouais. Et ça s'autofinance?
Non.
Non, vous faites appel à des fonds extérieurs?
Non, ça a été autofinancé jusqu'à pas très longtemps, jusqu'à décembre.
Ouais. Ouais, parce que pour accélérer autant d'ouvertures de boutiques, il faut un peu de fonds quand même.
Jusqu'à décembre, c'était 100% non. Et là, viennent de rentrer en scène LVMH, le diable. Non, je rigole. Non, ils sont cool.
Ouais.
Ça se passe plutôt bien.
Ouais.
Mais ultra minoritaire, 12%. Mais ils nous aident beaucoup. Très bonne surprise d'ailleurs. On nous les vend comme le diable, ça dépend sur qui on tombe, tu vois. Là, ils nous aident beaucoup, tu vois. Ils disent, eh bien, attends, on va pas là, le loyer est trop cher. C'est hyper agréable d'avoir quelqu'un qui se dit, fais gaffe, tu te gourres sur cet endroit. Où... On écoute, on prend pas tout. Mmh. Parce que c'est pas la même chose, mais voilà. Ah, hello. Hello, gozaimasu. Can we call like, can you wake up Yann?
Okay.
And we go to work.
Okay.
Do you mind?
Take
care.
Okay.
Et j'ai 5 minutes parce qu'il faut réveiller l'autre.
Ouais, ça marche.
Et voilà. Et donc, moi, je me réveille à 5-6 heures du mat tous les jours pour travailler. Donc, c'est une autre façon de vivre. Tu vois, de 5 à 6 ou 7, je réfléchis. Je travaille. Ouais. Tu vois, prends mon temps. Le cerveau, personne ne me dérange. Quoique le Japon me dérange déjà, ils le savent. Ou la Corée, où on a 6 boutiques déjà à Séoul. Et puis après, petit à petit, tu vois. Ça s'éclaircit. Mais là, ce matin, je me suis réveillé, il y a une éponge dans la cervelle. Mais les gens ne se rendent pas compte que le cerveau, c'est une machine incroyable et qu'il y a... faut lire. Regarde, hier soir, je lisais encore ce magazine sur les magazines japonais. Où ça se voit autour de moi. Je suis entouré de livres, je suis à la recherche de tout. Je fais de la recherche du matin au soir. On va dans la pièce à côté, c'est pareil, c'est rempli.
Et comment on fait le tri ? Parce qu'on est dans une époque où il y a quand même vachement d'infos en permanence, on en prend plein la tronche. Quoi.
Mais on coupe, on regarde pas.
Ouais.
Mais c'est de la merde. Instagram, c'est remplir son cerveau comme on remplit son ventre avec du Nutella quand on est obèse. Mmh. Mais là, avec des images, donc on est des obèses d'images. On voit trop de trucs qui ne servent à rien. Remplissez pas votre tête avec de la merde du matin au soir. Mmh.
Est-ce qu'il y a d'autres gens, enfin des gens qui vous impressionnent aujourd'hui dans l'univers de la mode, l'univers du lifestyle, de la beauté, de la restauration. Est-ce qu'il y a des gens qui... Tout à l'heure, vous parliez de gens que vous admiriez, mais qui sont peut-être un peu plus vieux d'une autre génération, mais aujourd'hui, en ce moment, dans ce qui se passe...
Moi, ce qu'a fait Bernard Arnault, ça m'impressionne. Les gens, ils parlent toujours d'EDA, mais le mec, il a dirigé, qui a amené ce truc-là, qui a convaincu toutes les banques, qui a convaincu tout, qui l'a financé. Le mec, numéro un mondial, il les a tous mis à l'amende, il continue à se développer.
Vous l'avez rencontré ?
Ça reste entre lui et moi. Ouais, je suis impressionné. Ouais. Impressionné par le mec. Il est pas, c'est pas une machine sociale, c'est pas, pas le mec le plus marrant du monde, je crois. Mais ce qu'il a fait, ramener notre pays sur un marché qui n'existait pas, sur un truc où on n'était pas très sérieux, ramener un peu de crédibilité, ben on peut dire, c'est grâce à lui que c'est devenu un marché vraiment. Après, comment ils le font, c'est peut-être pas ma façon, mais voilà. Et c'est pas de la lèche, c'est pas parce qu'il a mis 12% dans ma boîte, la tête de ma mère, hein, genre rien à carrer, ça.
Ouais. Qu'est-ce que vous diriez à Ramdan, 20 ans ?
Hein ?
Qu'est-ce que vous diriez à Ramdan, 20 ans ? Si vous pouviez revenir en arrière et lui shooter dans l'oreille quelque chose.
Ferme ta gueule. Travail. Je crois qu'au début, j'étais trop déconcentré. Parce qu'il y a plein de trucs qui auraient dû être des gros cartons qui auraient dû rester. Voilà. Mais si vous me demandez de... Je regrette rien. En fait, j'ai tellement de trucs à raconter dans ma vie. Et voilà, quand j'espère être un jour grand-père, et leur raconter toute leur... Déjà, ce que je raconte à mes gosses, ils hallucinent. T'as toujours un pélo qui vient frapper à la porte et on a eu des aventures tarées. Et... Alors lui, j'ai eu un carjack en Russie, on a failli se faire buter ou des trucs comme ça. T'as les enfants, ils sont « What ?»
Ouais, leur père, il est fada.
Et surtout, mes enfants, ils ont vécu avec nous à Tokyo, à New York, à Jaipur, partout, à Tanger, tout ça. Ouais. Donc,
Comment vous leur transmettez quoi comme valeur à vos enfants ? C'est une question que je me pose toujours parce que Vous venez de.
C'est dur, c'est
de
pas.
De la rue, et aujourd'hui, vous vivez quand même dans un autre monde. C'est pas le même monde, c'est pas les mêmes problématiques.
C'est très dur pour moi parce que c'est des jeux bourges. Et je suis pas entraîné à éduquer des bourges. Mais c'est bon, ils ont beaucoup de chance, ils ont une vie incroyable, donc je fais en sorte que ça continue. Mais ouais, c'est très dur de. Non, c'est pas.
Cet instinct de survie que vous aviez, vous.
Non, ben, exemple. Mais... C'est une autre planète.
C'est pas possible.
Je savais même pas qu'elle existait, la planète. Où je vis là.
Ouais.
Vous voyez que des fois, quand on voit. La NASA a découvert une nouvelle planète. Mais moi, j'ai découvert 50 nouvelles planètes dans ma vie. Donc, je savais même pas d'où je viens. Mon père, il est retraité, il touche 700 euros par mois. Tu vois, c'est vraiment de la misère sociale totale. Mais la misère culturelle, tout.
Et voilà. Mais ce moteur, il vient de quoi?
Alors, il y a un truc que je vais donner. C'est le meilleur conseil que je puisse donner à tout le monde. Curiosité. C'est la clé. Curieux de tout.
C'est ça qui vous a fait...
La question, c'est pourquoi? D'où ça vient? C'est qui l'a fait? Qui a fait ça? D'où vient son inspiration? Tout. Je suis très mort de rire quand je vois la mode aujourd'hui. Parce que moi, j'ai été curieux et je vois rien de nouveau. Je suis pas... Même même médiatiquement, je vois rien de nouveau. C'est juste un peu plus hystérisé dû au fait qu'il y a les réseaux sociaux. Il y a juste une légère hystérisation du truc, mais rien de nouveau. Rien. J'ai l'impression que les mecs, c'est tout ça pour ça. Mais ça marche.
Ça fonctionne, ouais.
Bon, attention, regardez qui achète. Hein. Quand tu crées une dépendance sur les Américains et les Chinois, faut avoir... En ce moment, on nivelle pour eux. Hein. On fait plaisir à deux marchés bien particuliers. Quand ces mecs-là vont passer à autre chose, beaucoup de gens vont se retrouver à poil. Il n'y a qu'à voir le parcours qu'a eu une marque comme vêtement. C'est soldé à moins 90% aujourd'hui à Taïwan. Hein. Allez-y. Hein. C'est le vent tourne. On est dans un moment hystérique. C'est pour ça que, vu toutes les tempêtes, j'ai préféré me concentrer sur des trucs à cycle long, comme Bully, qui ont l'air de vieilles maisons, comme Sertrudon, qui sont des vraies vieilles maisons. Mais Bully est une vraie maison. Hein. Les gens ne savent pas, mais Bully a fabriqué des produits jusqu'à il n'y a pas longtemps.
Ouais.
Un produit qui était le vinaigre de toilette.
Ouais, ouais.
Et donc, l'idée, c'est restons sur du cycle long au lieu de nous enquiller des cycles courts qui sont hystériques.
Sur de la mode.
Ben ouais, aujourd'hui, tu as la mode. Mais il y a tellement une production d'images que ça fatigue très vite, les gens.
Ouais.
Aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte, mais pendant 2 ans, tu as énormément d'images d'une marque dont tout le monde va parler, et au bout d'un moment, tu es fatigué. L'œil fatigue. Ce n'est pas une surprise aujourd'hui d'aller, je veux dire, à un endroit avec une paire de baskets Balenciaga, tu vois. Ce que je ne porterai jamais, c'est à mourir de rire. L'objet, il est pour moi incompréhensible.
Ouais. Donc, s'il y a un message pour les jeunes entrepreneurs qui veulent lancer leur business, c'est quoi? C'est retour à la tradition? C'est aller vers le vrai produit, le vrai.
Être sûr. Déjà, pas douter de ce qu'on va lancer, ça, c'est un truc. Je vois des gens douter. Tu dis 2-3 trucs, tu l'allumes, le mec, il est pas prêt. Mais très souvent, tu dis, mais attends, t'as pas pensé à ça? Ah non. Ah oui, vous avez raison. Mec, t'es pas prêt. Donc, connaître son dossier par cœur, c'est impeccable. Toutes les questions, il faut se les poser, il faut avoir des réponses à tout. Et ensuite, curiosité. Et puis être sûr, une assurance de ouf de soi.
Non, mais cette assurance, elle vient de quoi?
Du succès. C'est la rançon du succès, l'assurance. Voilà. Je connais des bananes. Tu lui dis 3 fois, c'est un génie. Il le pense au bout de la 3e fois. Une vraie banane. Et quand l'assurance est là, le mec, il est imbougeable. Il est imbattable.
Et elle se cultive, cette assurance?
Elle vient de regarder les autres très souvent.
Ouais. Dernière question pour passer le relais. Qui souhaiteriez-vous entendre dans ce podcast?
Colette. Elle-même, pas sa fille. Mais je pense pas qu'elle le fasse.
Ah ouais?
La connaissant.
Bon, je vais essayer quand même.
Hein?
Je vais essayer quand même.
Non, c'est pas du genre. Non. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait son charme.
Très bien.
C'est pas une théorie, elle théorise pas, elle est dans la pratique, elle est dans l'action, elle. Mais hyper respect, total respect.
Merci beaucoup, Ramdan. À bientôt. Merci d'avoir écouté. Si vous êtes encore là, c'est peut-être parce que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un commentaire sur iTunes et SoundCloud. C'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. Pour cela, rien de plus simple. Lancez iTunes depuis votre ordinateur ou Apple Podcasts depuis votre iPhone et cherchez « Entreprendre dans la mode » dans votre barre de recherche. Allez dans la section « Notes et avis » et laissez un commentaire.
Vous pouvez aussi choisir le nombre d'étoiles, 5 est de loin mon préféré. Merci de soutenir ce podcast et à mardi prochain pour un nouvel épisode.